Odile avec vous de 17h à 18h. Bienvenue sur Fréquence Mistral 99.3 pour notre émission du mercredi, passionnément vôtre, où je suis ravie d'accueillir en direct un nouvel invité dans un instant. Eh bien, bonjour à tous nos auditeurs de Fréquence Mistral et bonjour à vous, Michel Bonafoux, notre invité.
Bonjour, Dil.
Ravi de vous accueillir dans de pareilles circonstances pour cette émission passionnément vôtre où vous êtes là, bien évidemment, pour nous parler de votre passion, qui est une passion pour le son et la composition. Tout de suite, on écoute un extrait que vous avez choisi. Alors voilà, Michel Bonafoux, vous avez choisi de nous faire écouter cet extrait. Qu'est-ce que c'est et pourquoi avoir choisi ce son ?
Alors qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est un tout petit peu anecdotique, mais enfin, pour répondre à la curiosité de tout un chacun, eh bien, c'est tout simplement les bords de l'Elbe, les rives de l'Elbe à Hambourg, pendant l'appareillage du Queen Mary, le deuxième du nom. Donc, c'est un spectacle. Les gens viennent en autobus, en autocar de très loin pour voir l'appareillage de ce plus grand paquebot du monde pour l'instant. Et c'est un feu d'artifice, ce qu'on a entendu au départ, et c'est l'accompagnement de toute une flottille de bateaux et des sirènes qui se répondent, dont la dernière sirène la plus forte qu'on a entendue, qui est celle de la capitainerie qui souhaite bon voyage au Queen Mary 2. Queen Mary 2, pour rester en VO du début à la fin, et la sirène magnifique du Queen Mary 2 qui y répond. Ça, c'est pour désamorcer la curiosité, et cet extrait-là, en fait, résume tout ce que j'ai à dire. Donc peut-être vais-je rester muet jusqu'à la fin de l'émission.
Oh, ce serait dommage, hein. Donc ça résume, tu peux avoir un peu plus de détails.
Certes. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que je me suis présenté comme preneur de son.
Qu'est-ce que c'est un preneur de son ?
Justement, la réponse était dans cet extrait sonore. C'est-à-dire, on va au-devant de ce qu'on aime entendre, ou alors on le reçoit par hasard. Et preneur de son, en fait, c'est tout un chacun. Sauf que, au lieu d'enregistrer uniquement avec mon cerveau, qui a quand même des faiblesses, je veux dire, dans la restitution, parce qu'un cerveau, un esprit, ça enjolive, ça déforme. Au lieu d'enregistrer uniquement avec mon cerveau, je me sers de micro et d'un enregistreur, qui donc ensuite donne une restitution le plus fidèle possible. Je ne dis bien pas fidèle tout court, mais le plus fidèle possible de ce qu'on a entendu.
D'où vous vient cette sensibilité sonore? Est-ce que c'est déjà tout petit, qu'il y avait des sons qui vous interpellaient particulièrement?
Mais chacun, quand il est encore à l'état de fœtus, a le premier sens qui s'ouvre chez un fœtus, c'est l'ouïe. Donc chacun entend avant de naître. Donc moi, je ne le considère pas comme privilégié, sauf que je donne une attention particulière à ce sens-là. C'est un des sens les plus intimes qui soit. Et la liaison entre l'oreille et le cerveau est une des plus courtes qui existent aussi dans notre système nerveux. Pour vous dire que cela va carrément au très fond de notre être et va puiser aussi dans nos souvenirs, va faire un méli-mélo de choses qui touchent profondément.
C'est un autodidacte que vous êtes formé pour être assistant du son?
Alors assistant du son, c'est là on déborde un tout petit peu le cadre de la prise de son et de la composition, c'est-à-dire assistant son, assistant ingénieur du son et le vocable intégral. Ça, c'est pour pouvoir apprivoiser le mieux possible l'outil d'enregistrement et de restitution. Car ce métier-là, cette passion-là, en fait, il y a les oreilles, il y a l'imaginaire, c'est le plus important. Mais quand on veut faire partager aux autres, il y a aussi tout le domaine technique qu'il convient de maîtriser au mieux pour ne pas trahir ce qu'on a à dire.
Alors, bien évidemment, la technique a beaucoup évolué et au tout début, vous captiez les sons avec un magnétophone à cassette.
Eh bien oui, parce que
ça n'avait pas la même sensibilité, je suppose, que ce qu'on peut avoir maintenant.
C'était la technologie d'alors, non, ce n'est pas la même bande passante ni la même dynamique. Bande passante, c'est-à-dire la sensibilité de l'oreille va grosso modo de 20 Hz, c'est-à-dire 20 vibrations par seconde, jusqu'à 20 000 Hz vibrations par seconde. La bande passante, c'est ça, notre oreille a cette bande passante-là. Les cassettes audio avaient une bande passante plus réduite. Le CD, les enregistrements numériques ont une bande passante qui correspond à celle de l'oreille et même qui l'excède. La dynamique, c'est la différence entre le son le plus petit que l'on peut entendre, petit entre guillemets, et le plus fort. Le CD, lui aussi, a une dynamique exceptionnelle.
Est-ce que, étant passionné du son, la musique est quelque chose que vous avez appris parallèlement ou...
On ne peut pas séparer le son de la musique, puisque la musique, c'est du son.
Oui.
Voilà. Moi, je ne me considère pas du tout comme musicien au sens académique, puisque je n'ai jamais vraiment appris la musique ni vraiment pratiqué un instrument. Moi, je me considère comme preneur de son, et on l'a annoncé aussi.
Et créateur aussi, compositeur.
Compositeur. Alors, compositeur, c'est un bien grand mot. Je l'utilise de manière au second degré, on va dire. Et je voudrais justement citer Catherine Portevin. Chaque son a sa vie propre, comme une couleur. Les mêler les uns aux autres ou les opposer, c'est composer. Voilà, moi ce qui m'intéresse dans le mot compositeur, c'est qu'on peut l'écrire en deux mots, c'est-à-dire poser à côté. C'est ce qui m'intéresse et c'est ce que je fais.
Donc compositeur, donc vous créez, est-ce qu'on pourrait, on aura certainement l'occasion d'écouter par oui. la suite des choses que vous avez composées.
Oui.
Et pour l'instant, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ou de nous faire écouter?
Pour l'instant, j'aurais envie de lire un petit texte.
Oui.
si c'est possible.
C'est tout à fait possible. Ce temps d'antenne est à vous, Monsieur Bonafoux.
Bien. Si on se tient sous le lustre en cristal du salon, les pieds enfoncés dans l'immense feuillage du tapis, si on reste absolument immobile et si on retient sa respiration, on peut entendre le silence. Il se compose de plusieurs choses. D'abord le bruissement du sang derrière le tympan, mais aussi les pendules qui font partout tic-tac, toutes à la fois. Puis le ronflement du feu dans le poêle, les volets noirs tremblent et cliquettent faiblement. On entend au loin un piano. C'est la fille du voisin qui fait des gammes. C'est à peine perceptible, mais ça vous enfonce quand même une pointe de chagrin dans le cœur. Impossible de savoir pourquoi. Dans la bibliothèque, grand-mère est penchée sur ses comptes. Sa plume d'acier grince sur le papier. De la cuisine arrive le bruit de la vaisselle et la voix de Mademoiselle Vega, puis c'est le silence. Mais la porcelaine et l'argenterie remuent encore dans la bassine. Le jour d'hiver s'obscurcit. Un traîneau passe, un grelot sonne. Bruit des sabots du cheval sur la neige glacée. Les patins du traîneau chuintent. Les pieds enfoncés dans le feuillage du tapis. Alexandre se demande « Pourquoi ai-je tant de chagrin ? Pourquoi suis-je si triste ? Est-ce la mort qui se tient immobile dans la demi-obscurité de l'entrée ? Est-ce sa respiration brève et sifflante que j'entends ? Vient-elle chercher grand-mère dans la bibliothèque qui est en train d'écrire dans son livre de contes à couverture bleue ? Alexandre veut immédiatement la rejoindre pour pleurer sur ses genoux, mais il n'a pas le droit. S'il bouge, s'il remue ne serait-ce que le petit doigt, la mort va se mettre en mouvement et arriver avant lui. Une lutte épuisante s'engage entre Alexandre et la mort qui attend dans l'entrée. Soudain, Mademoiselle Esther verse du charbon dans le poêle avec une pelle noire en fer. Cela fait un bruit fort et libérateur. La terrible visiteuse est enfin partie. Alors ce texte, c'est comme l'extrait du paquebot qui appareille. Pour moi, tout est là-dedans. Donc je vais quand même continuer à parler pour finir l'émission.
Mais c'est
ça pourrait s'arrêter là. Et ce texte a été écrit par Ingmar Bergman, c'est dans Fanny et Alexandre. Mm-hmm. Pour moi, ça résume tout. Et il y a des petites phrases. Une petite phrase, c'est celle qui parle du silence. Si on retient sa respiration, on peut entendre le silence. Ça paraît paradoxal. Mais finalement, le silence s'entend parce que le silence n'existe pas.
Oui, parce que c'est très difficile de faire un enregistrement d'un CD uniquement de silence.
Oui,
autant. Même dans les meilleurs studios, c'est très très difficile d'enregistrer le silence.
Et heureusement, heureusement.
Est-ce qu'on écoute un deuxième extrait ?
On va écouter un deuxième extrait, oui. Alors ça, c'est un des sons favoris des preneurs de son. C'est facile, il suffit d'être là quand le train passe. Mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que ça nous ramène, justement, comme dans le texte de Bergman, ça nous ramène à une époque passée, ça nous ramène à nos souvenirs. En fait, à quoi sert la musique, finalement ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question ?
Je pense que c'est variable pour tout le monde, donc c'est en fonction de notre émotivité.
Voilà, c'est en fonction de notre émotivité, de notre vécu, de ce à quoi on accorde de l'importance ou pas. Donc, pour moi, peut-être que la musique au sens large, pas uniquement la musique composée avec des figures de notes et avec des notes, la musique au sens large, c'est retrouver son être profond. Et le train à vapeur, finalement, c'est un des grands classiques, symboliques, emblématiques de ce qu'on a au fond de nous. Pourquoi ? Parce que ça nous rappelle des souvenirs. Enfin, pour ceux qui ont connu.
Pas toujours bon, voilà. Effectivement, malheureusement pour certains. Voilà.
Oui. Ouais. Mais il y a quelque chose de plus. C'est bien beau de dire telle chose m'évoque tel souvenir ou autre. Mais ce qu'il y a de plus, c'est qu'il y a un rythme dedans. Et pour moi, ce qui est un des fondamentaux de la musique et de tout ce qui peut s'apparenter à la musique, c'est le rythme. Parce que le rythme, on en a de partout naturellement, à commencer par le rythme
le cœur.
De notre cœur, le rythme de la respiration qui se superpose à celui du cœur. Il y a le rythme de la marche. Il y a des rythmes de partout dans notre corps et dans notre vie de tous les jours. Et justement, cette machine a un rythme. Ce n'est pas la seule. J'ai fait, il n'y a pas très longtemps, l'enregistrement d'une péniche sur le canal du Rhin qui a un rythme de jazz incroyable qui apparaît. Et on se dit, quand on entend ces sons naturels, que ce n'est pas la peine d'aller plus loin et qu'il se suffit à lui-même. Il suffit d'écouter notre environnement. On est dans la musique tout le temps.
Oui. Je voulais vous demander, les oiseaux, puisque ça, c'est quand même les premiers musiciens, est-ce que vous avez étudié les chants d'oiseaux
Ne m'appelant pas Olivier Messiaen, je n'ai pas étudié les chants d'oiseaux. Non. Moi, je les apprécie pour leur musicalité, mais je ne veux pas les décortiquer. Justement, ça me fait penser à un texte de Pierre-Henri. Pierre-Henri, donc, avec Pierre Schaeffer, un des fondateurs de la musique concrète. Pierre-Henri qui était surtout connu pour sa messe du temps présent avec...
J'ai essayé de m'initier, de m'initier un peu à ce qu'il avait fait. J'accroche pas forcément, mais bon, ça c'est... je pense qu'il faut étudier un peu plus longtemps ce qu'il a fait.
Voilà, donc Pierre-Henri a fait des choses très musicales pour les ballets de Béjart. Il a aussi, quand il a aménagé dans sa nouvelle maison, ouvert la porte du grenier qui grinçait. Il s'est exclamé « Cette porte sera mon synthétiseur ». Et effectivement, sur un de ses enregistrements, on trouve « Concerto pour une porte et un soupir ». Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que Pierre-Henri avait travaillé avec Pierre Schaeffer et puis ils se sont séparés professionnellement parlant. Il dit aujourd'hui, Pierre-Henri, que s'il avait quitté Schaeffer, ce n'était pas pour des questions de personnalité ou de pouvoir. Moi, ça ne m'intéressait pas d'analyser les sons. Le son, je le sens, ça me suffit pour travailler. Je n'ai pas besoin de l'objectiver, je sens ce que je peux faire avec tel son, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de le décrire sous tous les angles, c'est une perte de temps. Donc c'est un peu la réponse que je ferai par rapport au chant d'oiseaux.
Je suis bien d'accord avec ça. De toute façon, on veut toujours tout analyser et des fois, c'est bien dommage parce que ça, le son se suffit à lui-même, comme les œuvres d'art, les peintures, où on n'a pas besoin de tout expliquer. Pour moi, l'essentiel, c'est l'émotion que ça dégage et ce qu'on en sort chacun.
Voilà. Alors moi, je ne vais pas dire la porte de mon grenier est mon synthétiseur, puisque la porte de mon grenier ne grince pas. Mais la matière sonore quotidienne... Ça, c'est mon synthétiseur et c'est ma matière qui me sert à composer, ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et là, on peut écouter un autre extrait.
Alors c'était quoi ?
Ça... J'en parlerai après. Ça, c'est une chance extraordinaire de preneur de son. Une chance extraordinaire de preneur de son qui est à l'affût, c'est-à-dire qui a l'enregistreur en bandoulière et les micros à la main. Sinon, ce genre de son, ça passe très vite, on ne les retrouve jamais. Moi, je pense que je comptabilise plus dans ma mémoire des occasions ratées d'enregistrement que ce qui a été réussi. Bon, c'est comme ça. Alors ça, je ne sais pas si vous avez une idée.
J'ai une idée, peut-être une benne.
Oui, ça c'est parce que les fichiers que j'ai fournis ont
j'ai
un titre.
J'ai un petit peu pompé, bon. C'est...
Voilà, donc mais c'est tout simplement un soir dans les rues de Bruxelles, un camion, une benne à ordures, qui avait je ne sais quoi qui ne marchait pas de manière adéquate dans son mécanisme et qui avait ce cri de dinosaure blessé ou autre, chacun entend ce qu'il veut. Donc ça, c'est une chance qui se présente de temps en temps, qu'il faut savoir saisir. Et mais la nature au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est le quotidien, nous donne des choses inespérées. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de Jacques Tati, qui est un cinéma très sonore. Les dialogues sont dans le lointain, les sons sont là sans y être. Bref, et il m'est arrivé un jour de trouver une situation tatiesque ou hulotesque, cela dépend comment on veut l'appeler. On va l'écouter tout de suite.
Votre attention s'il vous plaît, nous invitons le passager qui a laissé un carton au hall 4 en banque numéro 18 de venir le récupérer de toute urgence, s'il vous plaît. Let us jump please with my passenger to we let a box in hall 4 in front of the desk number 18 to come take it. Thank you.
Alors, bon, on suppose que c'est dans un aérogare.
Oui.
Et alors, c'est un gag ? Qu'est-ce que c'est de...
Non, c'est la réalité. Uh-huh. C'est une réalité. Ça aurait pu être sur un tournage, quelque chose de dit par une comédienne. Non, c'est la réalité. Donc, voilà, quand on a ses oreilles ouvertes, eh bien, on est dans un film de Tati assez souvent.
Alors, on enchaîne avec quoi ? Comment vous êtes venu, vous avez créé un CD ?
Plusieurs,
de, plusieurs CD de ouais. vos compositions. Mmh. Est-ce qu'on peut avoir la chance de savoir comment vous avez concocté tout ça ? Et s'il y a un thème ?
Bien, le thème, on va dire, soit je définis un thème et j'essaye ensuite de trouver des sons, de trouver un rythme qui, je vais utiliser un mot que je n'avais pas envie d'utiliser, mais il ne m'en vient pas d'autre à l'esprit, et puis je l'illustre. Mais ce n'est pas ça, je veux dire, ce n'est pas illustrer, c'est plutôt lui insuffler une certaine vie, plutôt qu'illustrer. Soit il y a ce cheminement-là, soit il y a le cheminement inverse. Je trouve un son qui m'intéresse, par exemple la benne qui criait, et à partir de là, je fais quelque chose. Il y a les deux cheminements, je n'en privilégie pas plus l'un que l'autre, c'est selon les circonstances.
Et donc, quels sont les moyens utilisés aussi ? Je suppose que vous associez différents sons, quelle est la base de...
Là aussi, il y a différents cheminements, parce que rien n'est simple.
Parce que vous enregistrez, par exemple, un son qui vous interpelle. Après, vous vous dites, tiens, ça irait bien à la suite de ce son-là. Comment vous composez ?
Voilà, tout l'art de la composition. Moi, j'essaye avec mon oreille uniquement de savoir ce qui s'accorde. Je les mets à côté, je les mets l'un par-dessus l'autre. Ça, c'est des sons qui ne sont pas, qui restent naturels, on va dire. Je peux en superposer 2, 3, 4, 5, 10... à volonté, mm-hmm. enfin, à volonté, tant que cela reste audible et que cela retranscrit ma volonté, ma pensée. Il y a aussi des sons que je forge, c'est-à-dire c'est comme une barre de fer, je la prends, je déforme. C'est-à-dire qu'un son, je peux l'étirer, je peux le contracter, je peux le filtrer, lui enlever des fréquences, je peux y en rajouter. Y mettre de la réverbération, y mettre des effets qui ont été inventés pour les guitaristes, par exemple. Je peux le retourner.
Et alors, ça donne quoi ? Je suis impatiente d'écouter.
D'écouter, ben on va pouvoir peut-être, oui, donner un extrait, ça nous fera une petite pause. Mm-hmm. Alors moi, je propose tout simplement d'écouter. On va écouter quelque chose que j'ai appelé Stimmen aus der Ferne, ce qui est un titre qui est allemand, bien sûr, et ce qui veut dire les voix du lointain. Les voix du lointain, mais c'est tout simplement les voix que l'on entend à la radio. Et plus précisément aux ondes courtes. Moi, quand j'étais petit, les ondes courtes m'intéressaient énormément. C'était un moyen de voyager tout en restant assis sur sa chaise. Un moyen de voyager extrêmement loin. Et puis, selon les heures de la journée, la réception n'était pas la même et on entendait des personnes parler chinois, parler russe, parler anglais. Et voilà, c'est ça pour moi les voix du lointain.
Alors, on écoute tout de suite.
Et de relative aisance.
Bonjour. Aujourd'hui, bonjour.
Donc, nous venons d'écouter un extrait d'une composition de vous, Michel Bonafoux.
Voilà, c'est un extrait parce que le morceau dure un petit peu plus de 5 minutes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que après avoir composé ça, pas mal de temps après, je relisais Barjavel, Le Voyageur imprudent. Et je trouve les lignes suivantes. Essayons, je ne sais pas comment ça se prononce, Essayons, c'est le nom du personnage, chercha la longueur d'onde. Un fil de lumière bleue se déplaçait sur les chiffres d'un cadran. Au passage, les échos du monde giclaient dans la pièce. Un éclat de cuivre, trois roucoulades d'un piano, les trilles du morse et le bruit de boîte à musique, des trains de brouillage par-dessus les voix déformées des speakers. Et cet extrait, en fait, résumait exactement ce que j'avais dans l'idée quand j'ai composé ce morceau-là, cette pièce-là.
Donc ça, c'était extrait de votre premier CD, première composition, que vous avez fait en quelle année? De quand date
Alors là, je crois que c'était dans les années 2006-2007.
Donc, il y a combien de compositions sur ce premier CD?
Il y a 8 titres.
8 titres?
Il y a 8 titres, voilà, qui tournent tous entre 5, 7, 10 minutes, 13 minutes, 15 minutes. Voilà. Ça dépend ce que j'ai à dire. Mm-hmm. En fait,
est-ce qu'on peut écouter un deuxième pour voir si on retrouve une ressemblance entre... S'il y a deux mondes différents en fonction de chaque composition?
On peut écouter, oui.
Oui,
oui. Oui. Par exemple, le numéro 4. Numéro 4, c'est celui qui a donné son titre à l'album, c'est « Seconde chance ». Alors je prends la parole au milieu de cette pièce parce qu'il est évident que je compose cela pour du matériel, on va dire, des chaînes de fidélité. Donc je ne sais pas si à la radio, si d'autant plus s'il y a un auditeur dans une voiture qui écoute ça, si tout passe.
Oui, ce parce qu'on a l'impression qu'il y a des moments de silence, donc on se demande s'il y a un problème technique ou pas.
Mais le silence n'existant pas. Donc ce sont des sons très ténus. Et c'est une pièce qui se développe sur presque 8 minutes. Mm-hmm. Donc je laisse le temps à l'auditeur de s'installer. Il y avait des bruits, donc des bruits cardiaques, des bruits de cœur, on en a toujours. Ils accompagnent tout au long de la pièce. Voilà. Il y a une histoire là-dedans, c'est ce qu'on peut aussi, ce que les Allemands appellent Hörspiel. Il y a certaines pièces que je compose uniquement pour les sons en eux-mêmes. Il y en a d'autres, il y a une histoire. Ça fait partie des pièces qui ont une histoire.
Donc là, il y a une voix.
Il y a une voix, oui.
Que vous avez cherché où ?
Ce qui signifie ?
Parce que je vous demandais si vous utilisiez votre voix pour les compositions. Et
Moi, je ne préfère pas.
Oui.
C'est une voix que je connais trop moi-même. Mm-hmm. Et là, j'avais besoin d'une voix féminine, donc ce n'était pas possible.
Donc on a l'impression qu'on nous chuchote dans les oreilles. Alors par rapport aux petits morceaux de phrases qu'on entend, ce sont des... Vous écrivez ?
Oui.
Des textes ?
Voilà, là c'est un petit texte que j'avais écrit pour la circonstance. Oui.
Donc voilà, c'était un extrait d'un deuxième morceau du premier CD que vous avez composé.
Voilà, j'appelle ça aussi de la musique acousmatique. Acousmatique, ça remonte à Pythagore, hein, qui enseignait séparé de ses élèves, alors selon les versions, soit par un panneau de bois, soit par un rideau. C'était donc la situation acousmatique pour que les élèves ne se fixent pas sur sa personne. Voilà, donc depuis, on a l'habitude d'appeler ça musique acousmatique. On appelle ça aussi musique concrète, puisque c'est composé avec des sons concrets. Musique pour bande, enfin, il y a plusieurs appellations. Alors, musique, oui, mais on peut se dire, moi, je n'ai pas entendu d'instrument là-dedans. Mais en fait, la définition de la musique, par exemple, j'ai trouvé ça dans un solfège. C'est le solfège des solfèges, de Danhauser, qui date de 1872, dans lequel l'auteur écrit « La musique est l'art des sons ». Ce que je fais rentre parfaitement là-dedans, c'est un art des sons. La musique a pour but de former des sons agréables. C'est un extrait du même ouvrage. Donc voilà pourquoi.
Des sons agréables, c'est une définition.
C'est une définition.
Parce que c'est pas toujours. Quand on entend la musique contemporaine, moi, c'est pas toujours agréable. C'est pas toujours mélodieux de. Enfin, à mon avis.
Oui, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Ouais. Et il m'est arrivé d'utiliser des sons qui, a priori, ne sont pas agréables. Alors là, je vais faire référence à John Cage, qui a sorti la célèbre phrase « Lorsqu'un son vous dérange, écoutez-le ». Et si on met en pratique ceci, on s'aperçoit que, d'une part, on trouve des choses positives dans ces sons qui dérangent. Et ça empêche ensuite d'avoir un rejet, de se mettre quelquefois dans des états qui ne sont pas très agréables. Et voilà, donc moi, c'est une phrase qui me semble très importante.
Bon, à méditer.
À méditer.
À essayer, mais bon. Ça peut paraître de la torture quand on a l'oreille sensible de se coller à un son très, très désagréable.
Mais tout est affaire d'éducation. Mmh. Il y a des choses qu'on pouvait trouver désagréables à un certain âge et qu'on trouve agréables ensuite.
Mais comme le larsen, par exemple. Ça, c'est le type même de son ultra désagréable et qui semblerait même pouvoir altérer le système auditif.
Enfin, oui, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est une boucle qui atteint des niveaux sonores très dangereux pour l'oreille, effectivement. Mmh. Mais le larsen, on peut très bien l'utiliser pour composer quelque chose. Mmh.
Bon, je vous laisse le soin de le faire. Moi, ça ne fera pas partie de ma composition. Alors, je vois que vous avez fait des concours de création sonore et réalisé des expositions sonores. Alors, à quoi ressemble une exposition sonore ?
Alors, une exposition sonore, eh bien, c'est tout simple. On prend une pièce propice à la propagation du son. Hein. Il ne faut pas que ce soit une pièce trop réverbérante ou trop absorbante, bien sûr. Une pièce de
Est-ce que je suppose qu'avec ce métier de sensibilité, de preneur de son, on a l'oreille ultra sensible et du coup, on peut devenir maniaque, justement, quand il y a trop de réverbération dans une pièce. Est-ce que c'est quelque chose, un réflexe que vous avez quand vous rentrez quelque part ? C'est de tester tout de suite la réverbération.
Même sans la tester, elle se teste toute seule. Le bruit des pas, le son de la voix, on sait tout de suite là où on rentre. C'est vrai qu'il y a des environnements qui sont extrêmement désagréables et fatigants, qui ne sont pas adaptés à tout. Quand on prend une église, ça en sonne très réverbérant. Si on commence à parler normalement, on ne peut pas. Mais on peut penser, et certains l'ont pensé, que cela a été fait volontairement. Pourquoi ? Parce que ça impose un phrasé qui est posé, qui est réfléchi, qui est très lent. Sinon, on ne comprend rien. Et ça, c'est comme je viens de parler, bien sûr, il n'y avait pas la réverbération. Mmh. Mais ça, eh bien, ça influe beaucoup sur les esprits. Un discours tel qu'il est, ça peut ressembler par la voix de l'officiant à une voix qui vient du ciel, avec un C majuscule.
Ce serait donc peut-être étudié pour mieux nous endoctriner.
Je vous laisse libre. Voilà, qu'est-ce qu'on disait avant ça ?
Une exposition sonore, à quoi ça ressemble ?
Eh bien, ça ressemble à rien. C'est-à-dire qu'au moins on voit de choses, au mieux c'est, bien sûr. Donc on peut dissimuler les appareils reproducteurs de son derrière des tentures ou autre. Enfin, c'est tout simplement organiser dans une pièce un espace avec des haut-parleurs. 2, 4, 8. Ça dépend de ce qu'on veut reproduire. Et de diffuser ça. Et de mettre les auditeurs dans une zone d'écoute privilégiée, bien sûr.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire écouter dans ces expositions ? Qu'est-ce que vous avez fait écouter dans des expositions sonores ?
Eh bien, j'ai fait écouter avec un phénomène de création qui était un peu inversé. C'est-à-dire que c'était en 2007, je connais un peintre qui a fait à Digne, puisqu'on est ici, une rétrospective de ses peintures sur le thème de la vanité. Ce vieux thème de la vanité qui était très utilisé au XVIIIe siècle ou ces environs-là. Donc, des tableaux très codifiés dans lesquels on trouve tout ce qui a trait au temps qui passe, à l'absurdité de la vie, aux possessions qui n'en sont pas, comme l'argent, ainsi de suite, et puis la mort, parce que la mort est quand même omniprésente dans ce que fait l'homme. On l'a bien entendu dans le texte de Bergman. Je voudrais faire une parenthèse d'ailleurs, ce texte-là, puisque quand Alexandre pense à la mort, que c'est le bruit du seau de charbon qui leur ramène à la vie, ça ne peut pas nous faire penser à autre chose qu'à Freud. Freud qui disait « Tout le bruit de la vie émane d'Eros, les instincts de mort opèrent en silence. » Je trouve qu'il y a un accord, une résonance, au sens propre du terme, entre ces deux textes-là de deux personnes différentes. Donc Vanity Kess, eh bien, ça reprend sous forme sonore tous les attributs de la vanité peinte.
On les coupe, oui.
Sauf un, peut-être le plus important, c'est que dans toutes les vanités picturales, il y a un crâne, ce qu'on appelle vulgairement une tête de mort. Moi, je n'ai pas su comment la transcrire sonorement. Donc le crâne, celui-là, c'est celui que chaque auditeur a lui-même entre ses oreilles.
On écoute tout de suite Vanity Case.
Alors bien sûr, il s'agit d'un extrait. Cette pièce se développe sur à peu près 10 minutes. Et bon, moi, je ne pense pas que la radio, en plein milieu de journée, soit un média propice pour diffuser des pièces de 10 minutes. Ceci dit, c'est mon avis personnel. Ce que je voulais dire par rapport à Vanity Case, c'est qu'il a été fait vraiment pour une exposition sonore. Je l'ai ensuite repris pour le mettre dans un CD, dans cet album-là. Mais voilà. Est-ce que c'est important ? Pour moi, oui. Pour l'auditeur, peut-être pas. C'est juste le processus de création.
Comment réagissent les gens qui ont écouté ces expositions sonores ? Quels sont les retours que vous avez par rapport à leur réaction, leur sensibilité ?
Alors, grosso modo, il y a trois types de réactions. Soit la personne aime, là, je suis heureux. Mm-hmm. Soit la personne rejette. Et il y a une demi-teinte, c'est la personne qui ne comprend pas bien. Voilà. Et moi, j'ai eu des personnes qui rejetaient quelque chose parce que de loin, elles n'étaient pas rentrées dans la pièce, elles entendaient des sons de voitures, des sons de klaxons. Et ces personnes-là m'ont dit, c'est pas la peine que j'aille écouter, ça je l'entends tous les jours dans la rue. Donc je leur ai expliqué un processus créatif, je leur ai parlé de John Cage peut-être. Et ces personnes-là sont venues écouter, sont rentrées dans la pièce, donc étaient dans de bonnes conditions d'écoute. Et leur jugement a été bien plus clément par la suite et elles ont compris ce qui se passait. Déjà, si on comprend, même si on n'aime pas, c'est déjà un grand pas. Mmh. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, et je pense qu'on va écouter ça, tout au moins le laisser en fond, ce sont les voix. Donc ici, c'est un extrait d'une pièce qui est dans mon deuxième album. C'est quelque chose qui se développe encore plus sur la durée, parce que moi, j'aime bien les choses qui se développent sur la durée. Ça s'appelle Multitude, et ça dure quelques 25 minutes.
Ce son-là, ça.
Oui.
25 minutes.
Mais pas que ça.
D'accord.
Pas que ça, parce qu'il y a des variations. Et ça, c'est une pièce que j'ai gardée longtemps dans l'idée sans savoir comment la concrétiser. C'est une idée qui m'est venue tout simplement. Je suis resté baladé, je suis resté un petit moment dans un village, on va dire, semi en ruine, comme on a beaucoup dans notre département. Les seuls habitants étaient un berger et son troupeau de brebis. Ce jour-là, il y avait légèrement du vent qui soufflait par rafale. Comme dans tout village en ruine qui se respecte, il y avait une tôle ondulée qui n'était pas bien fixée. Et chaque fois que le vent faisait claquer cette tôle ondulée, les brebis faisaient un silence complet, au lieu de bêler, faire tous les bruits que font les brebis. Pardon, que font les brebis habituellement. La tôle claquait, silence. Puis tout reprenait doucement, jusqu'au prochain claquement de tôle. Et je me suis dit, ça c'est extraordinaire. Je n'avais rien pour enregistrer, comme ça arrive souvent. Et je l'ai retranscrit dans cette pièce multitude. Ce ne sont pas des brebis, ce sont des humains. Ce n'est pas une tôle, c'est autre chose. Mais l'idée était là, toute faite, il suffisait de la mettre en forme. Voilà, donc moi je conçois ces pièces-là. C'est à écouter dans son meilleur fauteuil, en étant sûr ou à peu près sûr que le téléphone ne va pas sonner, qu'on est tranquille. Et il faut se laisser porter. Il ne faut pas chercher, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire celui-là quand il a fait ça ? Non, il faut se laisser, il faut, comme on dit, lâcher prise. Pas avoir de saisie sur le son. Et c'est pour ça, comme dans l'extrait avec le Queen Mary 2, que j'aime enregistrer à l'étranger. Ce qu'on entend en ce moment, c'est aussi enregistré à l'étranger. Pourquoi ? C'est pas pour mettre de l'exotisme, c'est pour éviter que la personne qui écoute se mette à savoir ce que disent les gens et reconnaissent les paroles. Moi, ce qui m'intéresse dans le vocal, c'est sa sonorité, c'est sa musicalité, et pas sa signification. Je parle bien dans ce cas-là. Quand on me parle, que c'est important, j'aime bien savoir ce qu'on me dit aussi. Mais dans ce cas-là, qui est un cas de musicalisation, je préfère des voix étrangères, parce qu'on ne fait pas une saisie sur le sens du discours. Alors, si on est attentif, on se rend compte que ce ne sont pas des bruits de foule tout simples. Il y a un rythme qui est derrière. Il y a des choses qui apparaissent, qui sont cycliques. L'essence de la musique, c'est la répétition. Le rythme, c'est une répétition. Donc, c'est une pièce à écouter. On a eu une interruption qui fait partie, donc, qui est cette tôle transposée. On ne l'a pas entendu parce qu'on était en train de parler. Mmh. Voilà. Hein, donc là, on a attaqué le deuxième cycle de la pièce, le deuxième mouvement, qui va être légèrement différent du premier tout en y ressemblant. Voilà, et ça se développe sur 25 minutes.
Donc ça, c'est issu du deuxième CD.
Oui, c'est le deuxième album, Multitude.
Multitude. Voilà. Le premier s'appelle Seconde Chance et le deuxième, Multitude.
Voilà, ça concerne les albums de composition acousmatique, puisqu'on est en train de parler savamment. Voilà, j'ai aussi d'autres prises de son que j'ai mises en forme, mais qui s'apparentent plus au reportage. Donc dernièrement, Il y a un engin, un générateur de son qui traîne encore dans nos rues et nos routes, bien qu'on ait cessé de fabriquer cet engin-là en 1989. Ben, je veux parler tout simplement de la 2 chevaux Citroën. Hein.
Bien sûr, puisque vous avez fait sortir un album très très récemment,
voilà,
qui s'appelle La Doche Sonore.
La Doche Sonore, oui. Mm-hmm. Oui. C'est un double album. Voilà, parce que cet engin, donc, est générateur de son qu'on ne retrouve plus actuellement. Actuellement, on a beaucoup de diesel avec de la sonorisation, un son qui s'apparente plus à un son de réfrigérateur ou de climatisation qu'à un son qui soit légèrement vivant. En fait, la 2 chevaux, c'est un peu comme la locomotive à vapeur des véhicules. Bon, on avait d'autres véhicules à refroidissement par air qui avaient des sons intéressants, la coccinelle, la Trabant. Voilà. Ce sont les trois véhicules emblématiques. Mais la deux chevaux est tellement populaire et encore tellement présente. Alors, les gens qui s'intéressent aux chevaux, on appelle ça les deux schistes. Ils font tous les deux ans des grandes manifestations internationales.
Et c'est un double CD.
C'est un double CD, oui. Donc, le premier CD, ce sont mes prises de son. On va écouter un extrait tout à l'heure, je pense. Ce sont des prises de son avec le son de la deux chevaux, bien sûr, évidemment. Ça aurait été impensable de ne pas mettre de son de deux chevaux. Et ce sont aussi les commentaires de leurs propriétaires ou de leurs utilisateurs sur ces sondes de chevaux. Alors, c'était enregistré dans une rencontre internationale, c'était en Suède, c'était en 2007. Et dernièrement, il y a eu en France la plus grande des manifestations de deux chevaux jamais organisées. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près 7500 véhicules, 15 000 visiteurs. C'était à Salbrise, dans le Loir-et-Cher, en Sologne. Et là, je continuais ce travail-là. Donc ça, c'est le CD « Faire la deux chevaux pour avoir du son », en référence, bien sûr, au fameux proverbe « Faire l'âne pour avoir du son », bien sûr. C'est-à-dire que, bon, là, je joue sur le double sens du mot « son », et parce que la deux chevaux me semble tellement extraordinaire qu'on dirait qu'elle a été fabriquée exprès pour générer ces sons-là. Le deuxième CD, ce ne sont pas mes prises de son. C'est plus un album souvenir, un album... Qui se balade parmi les différents créateurs, on va dire, parce qu'il y a des gens qui transforment les deux chevaux aussi. Donc là, il y a des engins qui atteignent des vitesses incroyables pour une deux chevaux. Il y a la deux chevaux électrique, il y a un concert de klaxons aussi. Voilà, justement, un bruit qui peut paraître agressif, inintéressant au possible. Si on l'écoute, si on le musicalise, on a un concert de klaxons. Moi, je trouve ça merveilleux. Voilà, on a aussi des bruits mécaniques, un changement de moteur. Un aveugle qui a acheté une AMI 8. L'AMI 8, c'est un moteur de deux chevaux, donc on est toujours dans le même sonore. Hein. Une recharge de panne, ainsi de suite. Voilà, ça c'est le CD Souvenir de sale bruit.
Alors, choisissez-nous donc un exemplaire. Donc, c'est ça ?
C'est ça, oui.
C'est ça. Donc on va écouter tout de suite parce que le temps file à vitesse grand V. Il est déjà 17h53. Et donc on écoute.
Voilà, c'est un extrait de Faire la deux chevaux pour avoir du son.
C'est difficile quand même. Hein. C'est un bruit unique. Enfin, je sais pas, c'est un bruit, on le connaît. Si ça tourne pas bien, on le sait directement. Après, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, mais bon. Ça...
C'est très bruyant. Autrement, on reconnaît le son de la deux chevaux. On entend quand la deux chevaux passe. Quand c'est une deux chevaux passe, on sait tout de suite qu'une deux chevaux passe.
Alors, on les connaît tous un par un, quoi. Le moindre bruit, ça se fond dans l'eau, mais le moindre bruit, il est significatif et il nous informe tout de suite sur. N'importe quoi de la voiture, ça va ou pas, et on vibre avec, quoi. Donc quand je monte dans une voiture moderne, j'ai l'impression d'être perdu, il n'y a plus de bruit, il n'y a rien.
It's quiet, it calms you down. It's relaxing. That's what she's saying. It's relaxing. Yes. So... That's yeah. That's all.
Ça a bercé notre enfance. Ça a bercé notre enfance, notre adolescence. Puis maintenant, sur l'arrière de la vie, c'est toujours la même mélodie pour nous. C'est toujours la même mélodie depuis tout petit jusqu'à maintenant. ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on entend le bruit de la deux chevaux, mélodieux, le bruit mélodieux de la deux chevaux. On a été emmenés par les parents dans la voiture. On en a une dans son adolescence, enfin, quand on avait 20 ans. Et puis maintenant qu'on est sur le tard, on s'en est séparés au milieu de notre vie. Puis maintenant qu'on est sur le tard, à 68 ans, eh ben, on retrouve ce bruit mélodieux de la voiture qu'on a eue dans notre jeunesse.
Si la deux chevaux n'avait pas ce bruit-là, ça ne serait pas... Ce ne sera pas ce qu'elle a de chevaux. Ça fait partie du charme qu'elle a. Donc il n'y a pas besoin d'autoradio dans la deux chevaux. Et le grincement de la suspension de temps en temps. Comme là, notamment, quand on roule dans les chemins du camping, on roule tout doucement et... Bon. Voilà, quels autres bruits, je ne sais pas.
Donc voilà, c'était un extrait du double album La Doche Sonore. La Doche pour faire du son, comment c'est ?
Faire la deux chevaux pour
faire
avoir du son.
Faire la deux chevaux pour avoir du son.
Voilà, bien sûr, c'est quelque chose qui se développe dans la durée. Les extraits sont... Je ne suis pas favorable aux extraits,
oui.
Mais on ne peut pas passer deux jours à écouter.
Voilà, donc évidemment, si on veut en savoir plus et retrouver, acheter ces albums, il y a un site.
Oui, parce que cet album-là a été produit par le musée de la deux chevaux, qui se trouve en Lorraine, qui est un musée exceptionnel. Donc je ne le détiens pas moi-même, je ne peux pas le vendre moi-même, c'est une coproduction. Il y a un site qui a été créé, donc soit on passe par mon site personnel et à partir de la page « Faire la deux chevaux pour avoir du son », on a un lien. Sinon on va tout simplement sur http://ladeuchesonore, tout attaché, et je pense que ça doit être .com. Et à ce moment-là on tombe sur le site du musée de la deux chevaux. Et il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se le procurer. Voilà les autres albums. J'ai aussi couvert, on va dire, entre guillemets, deux années consécutives, la rencontre Valence-Solex, donc qui est à Valence-Sol, qui était la rencontre de Solex. Solex, pour moi, c'est un peu une deux chevaux à deux roues.
C'est aussi important au niveau du son, j'imagine.
Eh bien, c'est ce que je m'imaginais. Et oui. Je suis tombé de haut parce que les utilisateurs de Solex n'ont pas du tout la même perception du son de leur véhicule que les deux schistes.
Ah oui.
Voilà, bien sûr, le moteur était très caractéristique, mais le reste, il y a beaucoup moins de son. Donc j'ai fait des reportages qui sont des souvenirs de Valence Solex, que je trouve très intéressants. Voilà. Les albums de création sonore pure, oui, sont disponibles sur mon site. Mon site, donc, je ne vais pas vous donner l'adresse parce que je ne la retiens jamais. Il suffit de taper mon prénom, mon nom, Michel Bonafoux, avec deux N et un X à la fin. Et à ce moment-là, on va tomber sur mon site et voir tous, écouter les extraits, avoir un historique de chaque pièce et pouvoir commander aussi, si on le désire, les albums.
Michel Bonafoux, c'est déjà l'heure de se quitter, donc un dernier mot de la fin ou...
Alors, je n'aime pas les mots de la fin.
Non. Bon, en tout cas, on vous retrouve sur le site et puis nous, on se retrouve sur Fréquence Mistral.
Je pense, oui.
Voilà, satisfait de ma régie, moi qui ne suis pas preneuse de son.
Ça va, vous êtes très bien débrouillée.
Merci, à très bientôt.
À bientôt.